Bonjour à tous, ça va bien? Là, Bill, on pensait à ça, moi puis Jonathan tantôt, puis on se disait que si les gars vident la moitié de leur garde-robe, on devrait être bon pour remplir un sac à poubelle. Mais si les filles font ça, ça va prendre un autre container. Là, je parle juste de la garde-robe à ma femme. Alors, je vous invite à tourner dans la lettre de Jude. Il y a quelques semaines, on avait commencé à étudier Jude et j'aimerais continuer. La semaine prochaine, on va regarder aussi une autre partie et on va regarder tantôt qu'est-ce qu'on va voir. On va lire quelques versets. Verset 1, dans le premier chapitre. Il y a juste un chapitre. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et on va aller au verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà les fouteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. J'ai modifié un petit peu mon titre pour « Comment grandir dans l'amour de Dieu ». Parce qu'on a vu il y a quelques semaines que l'exhortation principale, c'était de se maintenir dans l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un petit retour sur le contexte, parce que ça fait déjà quelques semaines, en soulignant quelques éléments. Ensuite de ça, on va pouvoir regarder ça. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, au verset 21. L'exhortation qui est importante, parce qu'elle laisse sous-entendre qu'il y a la possibilité qu'on ne se maintienne pas dans l'amour de Dieu. Et je ne suis pas en train de parler de perte du salut, parce qu'au verset 1, il règle la question. Ceux qui l'appellent sont aimés de Dieu et il les garde. Donc, c'est l'action de Dieu de nous garder. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on peut perdre le salut, mais en tant que chrétien, on peut ne pas se maintenir dans l'amour de Dieu. Et ce qui est souligné, c'est qu'il appelle des personnes, il les aime et il les garde. Jude, c'est une lettre qui parle de la persévérance. C'est l'introduction, mais c'est à la fois aussi la conclusion à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître debout devant sa gloire, au verset 24. Et à cause de son amour, il crée la vie spirituelle dans des personnes et il les garde. Mais entre ça, il y a une série d'avertissements, parce que dans l'Église que Jude écrit, il y a des personnes qui vont venir et puis ils déforment la grâce de Dieu, au verset 4, et puis ils renient Jésus-Christ par leur comportement, et puis en fin de compte, ils vivent dans une espèce de libertinage qui est malsain et qui divise l'Église. Et là, on arrive à l'exhortation au verset 20 et 21. Et il y a un impératif dans l'original, c'est « maintenez-vous ». Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et ce qui entoure, parce que là, c'est beau de dire maintenez-vous dans l'amour de Dieu, et ce qui entoure est la façon qu'on peut se maintenir dans l'amour de Dieu. Et on va regarder un petit peu plus ce point-là aujourd'hui. En fait, l'exhortation se résume comme ceci. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, car Dieu est celui qui vous garde dans son amour. Et comment ça fonctionne tout ça? Et suivez la logique, et je veux rappeler la logique qu'on a regardée. Le verset 1 nous dit que l'amour de Dieu nous a appelés, mais aussi que l'amour de Dieu nous garde. Par conséquent, gardez-vous dans cet amour. Il prend la peine de nous dire comment que qu'est-ce que Dieu a fait pour ensuite nous dire, ben faites-le. Alors voyez, l'équilibre est rattrapé ici entre la souveraineté de Dieu et notre responsabilité aussi en tant que croyant. Et ça, ça nous parle de maturité spirituelle, ça nous parle de croissance spirituelle. Trois mots-clés, foi, prière et attente, qui entourent cette exhortation de se maintenir dans cet amour. Timothy Lane a dit ceci. Rien n'est plus évident que le besoin de changement. Rien ne l'est moins que de savoir ce qui doit changer et comment y parvenir. C'est vraiment intéressant comme réflexion. Et dans son livre, « Changer vraiment comment », d'ailleurs, je vous invite à le lire et le relire. C'est vraiment pertinent comme réflexion. Puis ça m'interpellait parce que je me disais peut-être, puis ça m'arrive aussi parce que j'ai écouté plusieurs prédications dans ma vie, puis à un moment donné, on a l'impression qu'on écoute une prédication et qu'on sort de l'église et là, on pète le feu jusqu'à temps qu'on arrive à la deuxième porte dans les escaliers et là, il semblerait que le changement tant souhaité commence à devenir difficile. Et là, vient le dimanche après-midi et souvent, la sanctification est pour rentrer. Là. Et peut-être que vous vous dites, je veux ça, je veux me maintenir dans l'amour de Dieu, je veux être capable de sortir de l'Église, puis de savoir que je suis dans l'amour de Dieu, mais là, je lutte avec le péché. Puis là, je vais revenir dimanche prochain, puis comme les autres dimanches, ben je vais être pareil. Puis le christianisme semble pas fonctionner. Et comment grandir dans la foi? Et puis, avec Trevor, tantôt, on est allé prier, puis je disais dans ma prière, je dis, tu choisis des personnes pécheresses pour apporter ta parole. Et je ne suis pas différent de vous. Là, quand j'étudiais ce texte, j'avais le désir de changer aussi, puis j'ai des luttes, j'ai des tentations, j'ai des combats dans ma vie, puis et moi-même, je veux savoir comment grandir dans l'amour de Dieu. Et je ne suis pas différent de vous. Mais comment grandir dans la foi? J'aimerais regarder ça aujourd'hui. Et on va regarder deux points sur les trois, les deux premiers. En fait, à la conférence Sola, Kevin DeYoung, c'était son plan de une de ses prédications. Et puis, en étudiant à un moment donné, je prenais mes notes, puis je dis, il me semble que j'ai déjà vu ça en quelque part. T'sais. Puis là, je me suis rappelé de ce plan-là qu'il y avait, qui était complètement dans un autre contexte, dans un autre verset, dans une autre affaire. Mais je trouvais tellement que ça fitait, que ça résumait, dans le fond, un petit peu l'idée que j'avais amenée. Évidemment, je l'ai modifiée un petit peu pour les besoins du contexte, mais on va regarder ça. Un effort dirigé par l'Évangile. Un effort alimenté par la foi. Et la semaine prochaine, on va voir un effort dynamisé par l'Esprit. Un effort dirigé par l'Évangile. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et je veux souligner, en partant, l'idée que la croissance spirituelle, c'est un effort. Et ça, je suis conscient que ce n'est pas populaire. Parce que moi, je suis un professionnel de la paresse et ça me fatigue. Mais le passage commence par « mais vous ». Le « mais », c'est en français, comment qu'on appelle ça? J'espère qu'il y en a qui sont bons en français parce que j'ai posé la question, mais j'ai un blanc. C'est ça. C'est une conjonction, mais j'avais un blanc en posant la question. Et ça sert à souligner au moins deux choses. Donc, ça l'établit un contraste avec ce qui précède, mais en même temps, il veut référer à ce qui précède pour établir le contraste. Et le contraste, c'est quoi? Je l'ai résumé comme ceci. Dans l'Église, il y a des personnes qui vont venir, on l'a lu dans les versets, qui vont venir et marchent selon leur convoitise, dans l'impiété, et ils vont causer des divisions. Mais vous n'agirez pas comme ça. On ne déformera pas la grâce. Eux autres le font, nous on ne le fera pas. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous. Édifiez-vous, on peut le voir de deux façons. On peut le voir comme notre fondement. Hein? Je mets un édifice, je fais un bon fondement, c'est une base qui est solide. Mais je peux le voir aussi en termes de processus, de croissance. J'édifie, je construis, je soulève. D'ailleurs, on a eu une belle image tantôt. Ils veulent ajouter un autre étage. Donc, oui, on veut une bonne base, mais en même temps, on veut élever ça. On veut construire. Et littéralement, ce que le verset dit, et là, je l'ai pris mot à mot dans mon grec ici, et là, j'ai souligné quelques mots. Vous, bien-aimés, édifiants, vous-même, sur la très sainte foi, sur la très sainte de vous foi, bon, mot à mot, dans le Saint-Esprit priant, vous-même, dans l'amour de Dieu, l'impératif, gardez-vous en attendant la miséricorde du Seigneur de nous, Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Ça fait bizarre un peu lire ça de même, mais ça souligne quand même les choses importantes. Un, on voit l'impératif, il y en a un, et on voit ce qui entoure, donc le processus de croissance, on le voit quand on regarde l'original. Édifiant-vous vous-même. Waouh, c'est pas Dieu qui le fait. L'Évangile, c'est pas ce que Dieu fait. Langage intéressant. Mais en référence directe avec ce que l'on doit faire. Notre marche chrétienne. Voyez l'équilibre de Jude. Oui, Dieu nous garde. Oui, Dieu il est glorieux. Il a plein de puissance. Il y a tous les attributs qu'il faut pour nous garder. C'est complètement l'œuvre de Dieu de nous appeler, de nous aimer, de nous mettre, de nous donner la vie spirituelle. Et là, Jude nous dit finalement, OK, faites-le. La méthode, c'est qu'il présente ce que Dieu fait et ensuite il dit, pratique-le. C'est ça le christianisme, c'est un combat. Et peut-être que vous n'aimez pas le mot « effort », alors considérez ceci. Faites mourir les actions du corps, Romains 8-13. Éphésiens 4, il utilise le verbe « dépouillez-vous, revêtez-vous ». Philippiens 1-27, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. 2-12, mettez votre salut en action. Colossiens 3.5, « Faites donc mourir votre nature terrestre. » 2 Pierre 1.5, « Faites tous vos efforts pour joindre à la piété, etc. etc. » C'est du langage biblique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu travailles fort et que Dieu travaille en toi. Et là, l'équilibre. Et comment ça marche? Quelques considérations. Un effort dirigé par l'Évangile. Jude met l'emphase sur le message des apôtres. La raison pour laquelle Jude nous écrit, c'est, il y a une raison, comme je désirais vivement vous écrire au verset 3, au sujet de notre salut commun. Il veut nous parler du salut qu'on a ensemble. Je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre. Et là, la majorité de la lettre parle de ce combat contre les faux docteurs. Et Jude écrit pas à des anciens, il écrit à tous les chrétiens. Parce que ce n'est pas la job d'un ancien de surveiller que la vérité soit dans l'Église. C'est la job de tout le monde. C'est notre travail d'être centré sur la vérité et la mettre en pratique dans notre vie, et de surveiller et d'entrer dans ce combat. Et ce message, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui est attaqué. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et la foi, ce n'est pas la première fois que ça revient dans Jude, chapitre 20. Il revient au verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et ici, le mot « foi », ça ne parle pas de « je mets ma foi en Dieu, ma confiance en Dieu ». Ça n'a pas de sens. Combattre parce que tu mets ta confiance en Dieu. Non, En fait, c'est une foi qui est transmise au saints une fois pour toutes. Donc, il est en train de parler du bagage d'enseignement chrétien, ce qui est établi au verset 17 par les apôtres. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres. » Et au verset 20, il revient. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi. » Donc, édifiez-vous, en fin de compte, sur l'Évangile. Et cette foi réfère à l'enseignement des apôtres qui doit être défendu et gardé. Et quelques réflexions personnelles sur cela pour mettre un petit peu plus d'emphase. Allô? Un, le terme foi revient à deux reprises dans le verset 17 en plus et réfère à l'enseignement des apôtres. Les trois versets qui parlent des Écritures dans Jude. Et c'est le but du pourquoi qu'il écrit. Deux, ces mêmes trois versets sont des textes dans lesquels nous rencontrons le message sur lequel nous devons construire, que l'on doit conserver et que l'on doit communiquer. Le message concerne notre salut communiqué complètement par les apôtres. Donc, la foi en question, c'est l'Évangile. Mais comment ça fonctionne? Comment une bonne nouvelle, l'Évangile, peut produire un bon comportement? Comment une bonne nouvelle, un message, peut changer une vie? Tout le monde est d'accord que l'Évangile est connecté avec la sainteté. En tout cas, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Mais comment ça marche? Premièrement, l'Évangile est contenu dans les Écritures. Il nous l'a transmis afin qu'on puisse plonger nos regards dedans, puis qu'on puisse s'édifier, qu'on puisse l'avoir en avant de nos yeux et qu'on puisse le méditer. Et là, on est là. Yes! OK, il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie, puis il faut que je communique ma foi. Hein? Qui a déjà entendu ça? C'est quoi le rôle du bon chrétien? Il faut qu'il lise sa Bible, qu'il prie. Puis... ouais, mais moi, lire ma Bible, j'haïs ça, je ne suis pas capable de lire. Prier, je m'endors. Communiquer ma foi, moi, je suis gêné. Ben, je ne suis pas un bon chrétien. Trois choses qu'on peut dire. La parole édifie. Il n'est pas dit, faut que tu lises 3 heures par jour. Le Seigneur t'a peut-être donné 5 minutes par jour. La question, c'est comment tu prends ton 5 minutes puis qu'est-ce que tu fais avec. Puis si tu es libéré à temps plein, comme Jeff qui était aveugle pour étudier, la question qu'il faut se poser, c'est comment que tu utilises ton temps plein pour Dieu. Il t'a béni en te donnant du temps pour étudier. Donc, la question, c'était redevable pour 40 heures, l'autre pour 5 heures, l'autre pour 70. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de croissance. Deuxièmement, c'est que cette parole, l'Évangile, est sainte. Et troisièmement, c'est qu'elle est utile pour le Saint-Esprit. Et la semaine prochaine, on va regarder ça. Mais négliger la parole a des effets dévastateurs. Cette semaine, pour illustrer, j'ai reçu un téléphone vraiment intéressant. Et puis à un moment donné, la personne m'a donné, elle dit, tu connais le proverbe, Jean-Luc, on parlait de lecture et tout ça. Elle m'a dit, un jour sans lire la parole de Dieu, Dieu le sait. 2 jours, tu le sais. 3 jours, les autres le savent. Elle trouvait ça, elle dit, c'est bon ça. Elle n'a pas dormi de la nuit. Deuxièmement, l'Évangile nous dirige vers la piété en nous disant la vérité à notre sujet. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Jean 17, 17, où ce que Jésus, dans sa prière, dit, « Père, sanctifie-les ta parole par la vérité, ta parole est la vérité. » On est sanctifié par la parole, sanctifié, rendre saint, ou encore libre du péché. John Owen disait, « La Bible va vous éloigner du péché, ou le péché va vous éloigner de la Bible. » Et c'est invariablement vrai. Et il n'est pas surprenant de dire, de la part de Jude, l'Évangile est saint. On vous le transmet, mais en même temps, ça va dire des vérités sur nous-mêmes, sur notre cœur, sur nos attitudes, sur nos motivations, qui vont faire en sorte qu'on va se rendre compte que la vie chrétienne, c'est un combat. Y en a-tu qui n'ont jamais réalisé que la vie chrétienne, c'est un combat? Et il n'est donc pas surprenant que ce soit difficile de lire la parole de Dieu, de prier, de communiquer sa foi. Mais qu'est-ce que ça donne d'avoir le Créateur de l'univers qui se révèle dans un livre si mon livre, je ne l'ouvre pas? Ça ne sert à rien. Troisièmement, c'est dans les Écritures que nous trouvons les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont le fondement de notre espérance en tant que croyant. Pensez à ceci. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est notre espérance est dans les Écritures, se trouve dans les promesses de Dieu. Tu sais, Jude, il continue, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur. On attend la miséricorde, c'est une promesse. Le Seigneur va revenir, là. Et où votre espérance? Mais notre espérance est souvent trompée par le péché ou souvent même par des bonnes choses qui nous éloignent d'étudier la parole de Dieu dans notre vie au quotidien. Des bonnes choses qui à un moment donné, dans le train-train quotidien de nos vies, ben, on vient qu'on ne lit plus. Puis quand on ne lit plus, ben, c'est drôle, mais on dirait que notre espérance est directement inversement proportionnelle. Tu sais, moins plus ça va, plus c'est dur qu'on batte pour le péché, plus que c'est, tu sais, tout devient difficile. Mais quand on se tient sur l'Évangile, qu'est-ce qu'on fait? On se le prêche à soi-même. Il y a quelque chose qui se produit quand on plonge les regards dans l'Évangile. Et cette chose, c'est qu'il nous propulse dans un sentiment de gratitude. On lit l'Évangile. On est touché. Comment ne pas être touché? L'Esprit travaille par l'Écriture. Et là, ben, on devient, vous manquez, vous êtes colérique, vous ne voulez pas pardonner, vous voulez vous mettre... vous luttez dans le péché, vous pensez que vous allez tout laisser ça là, et souvent c'est parce qu'il y a un manque de gratitude. Vous manquez de gratitude, pas sûr qu'on va trouver la paix. Et moi je dois vous dire que depuis quelques semaines, mon âme n'est pas en paix. À toutes les 20 minutes, je me dis que je lâche tout. Concentré au travail, je trippe au bout. Je vais aller faire du judo, je vais continuer à battre des policiers. Je vais... Ça donne quoi? Et je me couche le soir et là, je pratique mon sport préféré, la culpabilité. Et là, je regarde le plafond, puis là, ben, je me sens coupable. Puis là, je pense à toutes mes faiblesses, puis je me dis, ça vaut pas la peine. Et là, ben, j'ai de la misère à dormir. Martin Lloyd-Jones, dans un exposé sur le psaume 42, verset 6, dans son livre « La dépression spirituelle », nous dit ceci. Psaume 42, 6. « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu sur moi? » Moi, ça fit. Tu sais, je veux que l'Évangile s'applique, là, mais moi, je me sens de même. Puis je suis convaincu que je ne suis pas tout seul. J'ai rencontré des personnes dans les dernières semaines là, qui, regarde, les larmes écoulaient. Là, tu sais. « Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Écoutez Martin Lloyd-Jones. En quoi consiste le traitement essentiel? Avant tout, comme le psalmiste, nous devons nous prendre en main. Cet homme ne se contente pas de se vautrer, de se lamenter sur son sort. Il réagit et se prend en main. Mieux encore, il s'adresse à lui-même. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu devant, au-dedans de moi? Et là, il continue. Le secret de la vie spirituelle consiste à savoir prendre sa vie. À savoir se prendre en main. Comment se parler, s'exhorter et s'interroger. Il nous faut dire à notre âme, pourquoi es-tu abattu? D'où viennent tous ces gémissements? Au lieu de nous morfondre dans la dépression, nous devons affronter ce moi, le réprimander, le condamner et l'exhorter. Espère en Dieu. Souvenons-nous alors de Dieu, de son caractère, de ses promesses, de ses œuvres présentes et passées, puis concluons sur cet élan puissant, relevons le défi devant nous-mêmes, devant Satan et le monde entier, déclarons comme le psalmiste, je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Je plonge les regards dans la parole. Je vois les promesses de Dieu. Et quand tout semble s'écrouler autour, il y a quelque chose qui se produit en moi vers Dieu en sachant qu'il me soutient, en sachant qu'il m'aime. Et j'ai le goût d'exploser en louange. L'Église du Cap en a besoin. Il y a du monde qui chante plus ici le dimanche matin. On se pose la question, si on est en communion, on a de la misère à se poser des questions, on se regarde tout le monde et chacun. Je reçois des séries de courriels pour me dire un tel a fait ci puis ça. Puis on a de la misère à se regarder notre propre cœur. Puis moi, j'ai de la misère aussi. J'en ai dit des conneries dans ma vie, mais laissons-nous pas avoir. Il y en a un qui gagne présentement dans notre église, juste un. Puis il n'est pas ici. Puis le monde entier regarde comment qu'on réagit. À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez. Et je nous dis, travaillez à ça. Travaillez à ça. L'Évangile nous propulse dans un sentiment de gratitude envers Dieu de sorte que ça va se refléter dans le monde, ça va se refléter dans nos vies. Et continuons mes observations. Tantôt, j'ai vu 4 points, 3 versets dans lesquels l'Écriture est contenue, mais dans ces mêmes 3 versets, il y a quelque chose de vraiment incroyable, c'est que le terme « bien-aimé » revient à 3 reprises dans cette lettre, et à 3 reprises, c'est dans les mêmes versets. L'Écriture est pour le chrétien. J'en déduis que l'Évangile, cette fois transmise au sein une fois pour toutes, s'adresse aux croyants. Par conséquent, nous devons, nous chrétiens, je les mets en gros, nous édifier sur cette foi, sur cet évangile. Ça s'arrête pas au message, ça s'arrête pas aux efforts qu'on fournit. C'est alimenté par notre foi. Et je fais la distinction entre la foi que Jude utilise, ou ce que c'est l'Évangile, c'est l'Écriture, c'est l'Évangile qu'on trouve dans les Écritures, ce que l'on croit, et notre foi de mettre confiance dans les Écritures. Oui, il y a la foi chrétienne, mais il y a la foi que je mets dans cette foi-là, dans cet Évangile. Je dois y croire, je dois mettre ma confiance dans l'Évangile, dans les promesses. Qu'est-ce que ça signifie, un effort alimenté par la foi? Quel est le lien avec un effort dirigé par l'Évangile? La foi a un rôle primordial dans la vie du croyant. C'est pas juste qu'on est justifié par la foi seule, mais nous sommes sanctifiés par la foi. Comment ça fonctionne? Quand je suis justifié, c'est passif, c'est Dieu qui produit ça, je reçois la justification, c'est pas moi qui produis ça. Mais la sanctification, c'est la grâce de Dieu qui travaille en moi et je mets tous mes efforts pour travailler à ma sainteté. Et en même temps, c'est Dieu. Puis Paul, il se posait la question, je fais ce que je veux pas, puis ce que je veux, ben je suis pas capable de le faire. Puis dans Romains 7, puis là, mais c'est quoi? C'est la grâce qui travaille. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est la grâce qui travaille, mais en même temps, je fais tous mes efforts pour travailler pour Dieu, mais en même temps, bien, c'est Dieu qui travaille. Comment ça fonctionne? Bien, c'est ça, c'est Saint-Esprit qui travaille, c'est notre foi, je mets ma confiance en Dieu. Je peux pas vous prouver dans un laboratoire que Dieu nous garde. En physique nucléaire, là, je n'ai pas un laboratoire qui dit, tu sais, Dieu te garde, là, voici une promesse, et voilà, je peux pas. Mais je mets ma confiance dans cet amour que Dieu a, parce que Dieu est comme ça. Je le sais qu'il a les capacités. Donc, je mets ma confiance en Dieu qui est capable de me garder, qui me dit qu'il m'aime, et que quand il nous a appelés, il n'y a rien qui va me séparer de son amour. Rien. Et je mets ma confiance là-dedans. Ce n'est pas simplement, je crois, donc je ne ferai pas telle chose. Oui, Dieu, je te crois, donc je ne ferai pas ça. Non. C'est plus que ça. C'est pas juste un comportement. C'est une attitude de cœur. C'est je mets toute ma foi dans l'Évangile et de là, je vais combattre les plaisirs du monde par des plaisirs qui sont supérieurs, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Autrement dit, toutes les œuvres et le travail dans la foi n'est pas seulement une réponse à la grâce, c'est un résultat. C'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une obéissance volontaire qui jaillit d'un cœur qui est transformé. Un effort alimenté par la foi dirigée par l'Évangile. Le plus beau mot dans toute prédication. Conclusion. Mais je ne veux pas arrêter à ce qu'il faut qu'on fasse. Et je ne veux pas vous partir d'ici avec simplement l'idée que là, la vie chrétienne, c'est ce que je fais. Et vous autres, les chrétiens, là, il faut que vous priez tant de temps, il faut que vous fassiez telle chose, puis il faut que vous fassiez. Non, non, c'est pas juste un comportement. Je ne veux pas limiter la vie chrétienne à un comportement ou simplement à ce qu'on doit faire. La semaine prochaine, on va voir que c'est dynamisé par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, s'il nous le donne, j'espère qu'il y a un rôle à jouer dans notre vie. J'espère. Mais n'est-il pas vrai que dans n'importe quel domaine de notre vie, les efforts sont demandés? Tu sais, j'ai une certaine capacité physique. Je fais du judo. Tu sais, je suis pas le plus souple au monde, mais tu sais, on dirait que j'ai la capacité des fois de me dévisser dans plein de positions. Tu sais, il y a des choses que j'ai physiquement. Alors, quand vous me voyez au McDonald's avec mes deux gros cheeseburgers doubles, avec mes frites, puis vous me posez la question, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je m'entraîne pour le championnat canadien de judo. Tu sais, ça ne vient pas tout seul. T'sais. Oui, il y a des habiletés qu'on peut avoir, mais en même temps, il y a un effort qu'il faut qu'on fournisse pour que je puisse arriver à certains résultats. Il n'y a personne qui voudrait rentrer dans la meilleure université qu'il y a, puis le voir dans les clubs en train de boire la bière, puis tu sais, lui là, hey, lui, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, t'es comment ça s'appelle? Le temple à Trois-Rivières sur des forges, là, puis qu'est-ce que tu fais? 3 heures du matin, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, je m'entraîne parce que je veux rentrer à Harvard, excuse mon anglais, Oxford ou Université Laval. Hey, écoute, mon programme il est contingenté à 25 personnes, on est 800 à appliquer dessus, je m'entraîne pour ça. Non. On sait qu'à un moment donné, on s'attend à ce qu'il soit dans ses livres en train d'étudier, à écouter des cours et à se former. Et pourquoi la sanctification ne découle pas simplement de la justification? Pourquoi? Ben, je te dis, ben, voyez, c'est complètement ce que Dieu fait. Ça, c'est le christianisme. À cette heure, fais-le. Tu sais, j'ai les cheveux blonds. Tu sais, j'aurais voulu avoir les cheveux noirs, mais. Peut-être pas, mais je peux pas changer ça. Tu sais, je veux dire, c'est produit. Maintenant, ben, conserve-les. Reste blond. C'est pas un bon exemple, mais ben, je peux pas travailler. J'ai pas d'effort à mettre. Mais quand j'ai les cheveux longs, il faut que je fasse de quoi, par exemple? Mais voyez-vous, il faut faire quelque chose. C'est pas simplement d'être assis comme des spectateurs en train de regarder, ah ben tiens, on est tous particuliers, tu sais, lui est cheveux blonds, lui est souple, lui est intelligent, lui est ci, lui est ça. Moi, John Piper, tu sais, c'est mon prédicateur, MacArthur ou Don Carson ou Tim Keller, et là, wow! Tu sais, Arnold Fontenbaum, 18 ans, il avait appris l'Ancien Testament par cœur. C'est un juif qui s'est converti au christianisme. Puis à un moment donné, j'étais là, puis là, on l'écoute parler, puis tu sais, il te met tous les versets ensemble. Tu sais, je suis là, puis, hey, tabarouette, tu sais, hey, un juif chrétien, lui, tu sais, il connaît ça, puis tu sais. Puis à un moment donné, j'étais quand même impressionné de tout ça, puis tu sais, je m'en vais le voir, puis Jean-Claude Gaudreau était avec moi, puis il m'a regardé, puis il a dit, tu sais, Jean-Luc, là, ce qu'il dit, là, c'est pas parce qu'il est juif, c'est parce qu'il l'a étudié. Je t'ai bien trop raison. Étudie plus fort. J'ai un modèle. Je veux être comme ça. Je veux être, tu sais, ben pas comme ça parce que lui, il est tout petit. Puis il y a une badane, tu sais. Je veux pas travailler. Mais je vais être comme ça. Il faut que je travaille. T'sais, si j'arrivais ici pas préparé, qu'est-ce que vous diriez? Il n'a pas travaillé. Alors, si on a une activité d'évangélisation d'église, et puis là, faut comment mettre un effort? Et là, il n'y a personne. C'est parce que tout le monde ensemble, il n'y a personne qui fait d'effort. C'est ça. La question, ce n'est pas tant de savoir combien de minutes tu as lu ta Bible aujourd'hui ou hier. T'as-tu prié aujourd'hui? Ah, j'ai oublié de lire ma parole. OK, go, je me sens coupable. Non, c'est pas une bonne question. Je peux faire toutes ces choses-là purement par l'égalisme. C'est important. C'est important de prier puis de lire. Mais est-ce que je le fais avec un cœur qui a le désir d'être transformé? La vie chrétienne, mais ça le dit, c'est une vie. Voici deux bonnes questions à se poser. As-tu grandi dans la sainteté depuis un an? Pas depuis hier. Ah, Jean-Luc, j'essaye de lire ma parole, puis là, ça ne marche pas, puis tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ouais, quand est-ce que tu as essayé ça? J'ai essayé hier. Hein? Pas hier, c'est une vie. Et luttes-tu avec le péché? Si la réponse est non, on appelle ça un problème. J'ai essayé de résumer en une phrase mon message. La vie chrétienne n'est jamais en dehors de l'Évangile et la transformation n'arrive jamais sans la foi. Autrement dit, la sanctification n'arrive pas sans la foi. Évidemment, aujourd'hui, il y a le risque que vous ressortiez, vous disiez, « Ah, il faut que je fasse des efforts. » Je vous le dis, c'est complètement vrai. Mais en même temps, c'est pas juste des efforts, c'est le travail de Dieu en nous par cet Évangile. Et deux choses qu'on doit comprendre. On doit travailler fort et la grâce de Dieu doit travailler en nous. Et la semaine prochaine, ça va être une troisième partie, on va regarder le travail de l'Esprit. Du moins, c'est quoi ça, prier par le Saint-Esprit dans le contexte de Jude? Et on va regarder comment ça fonctionne pour continuer à essayer de grandir dans l'amour de Dieu. On va prier. Seigneur Dieu, merci parce que ta parole est puissante. Ne permets pas qu'on sorte d'ici et qu'on n'ait pas le désir d'être transformé par ta parole. Je suis complètement conscient d'au moins deux choses, Seigneur. La première, c'est que j'ai des faibles mots. Et la deuxième, c'est que j'ai besoin moi-même de changement. Et il y a un risque de prendre la parole pour être critiqué. Et Seigneur, que chacun d'entre nous prenne le risque de se reposer sur l'Évangile et de le mettre au centre de nos vies, en sachant qu'en faisant ça, on rentre dans un combat. Et tout comme Jude, Seigneur, dans notre Église, on vit des combats de l'intérieur de l'Église. Aide-nous à garder la vérité centrale, chacun d'entre nous. Garde-nous de la médisance, du manque de gratitude. Garde-nous du manque d'amour. Qu'on puisse appliquer tes promesses dans nos vies et qu'on puisse exploser de joie débordante. Qu'on soit transformé en tant qu'Église, en tant que personne, simplement pour ta gloire. Amen.